bon pour la santé.
L'auteur, la comédienne, la chanteuse et lectrice à vues et voix que nous accueillons aujourd'hui a fait œuvre plus qu'humaine pendant plus de 10 ans comme femme passeuse en accompagnant les enfants en fin de vie. On reçoit cette femme à la voix rassurante et sereine, Lise Toin. Vous vous rappelez d'elle dans « Lance et conte » et quand elle révélait l'ouïe extraordinaire de la grenouille dans le conte pour tous, La grenouille et la baleine en 1987. Derrière l'écran, il y avait pourtant cette expérience qui alla changer sa vie. Après des années de jeu et de collaboration au cinéma, au retour d'un voyage en Italie, Lise Toin vit un moment de rupture, une bascule du côté de la mort clinique. Elle en est revenue. Elle en témoigne d'ailleurs dans son livre « De l'autre côté des choses », livre qui sera d'ailleurs bientôt disponible. Cette expérience l'a transformée, bien sûr, dans ce don qu'elle fait complètement. Elle aide aujourd'hui les enfants en difficulté d'apprentissage et les personnes aveugles par sa lecture du livre adapté chez Vues et Voix. On reçoit cette femme qu'on a l'habitude d'entendre avec douceur et passion de vivre, Lise Toin.
Ici Catherine Bourderon avec le docteur François Boruel.
Bonjour.
Bonjour, on plonge dans l'univers de Lise Toin. Bonjour Lise.
Bonjour.
On va faire une émission aujourd'hui à partir de vos préoccupations santé. On accueillera pour ce faire des chroniqueuses et des invités. Claudine Larivière, que nous connaissons bien, qui est nutritionniste et spécialiste en productivité humaine, qui va nous aider à nourrir nos cerveaux. Mais aussi Nathalie Vien, travailleuse sociale, formatrice et conférencière à la maison Montbourquette. Madame Vien est une spécialiste du deuil. Et aussi Marilyn Fournier, directrice générale du réseau de l'Action bénévole du Québec, qui va nous parler de cet engagement qu'est le bénévolat, que vous connaissez bien et qui comporte tant de bienfaits.
Alors bonjour à nouveau Lise.
Bonjour Catherine.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation à l'émission C'est bon pour la santé. Lise Toin, on vous connaît, ça c'est clair, mais je veux juste rappeler pour le bénéfice des auditeurs, vous avez été la conjointe du réalisateur Jean-Claude Lahore. Qu'est-ce qui vous reste de cette période du cinéma?
Oh, beaucoup de joie. J'ai toujours adoré faire du cinéma, de la télé, des spectacles. Et après, la vie m'a amenée à faire des conférences, qui pour moi étaient à peu près la même chose, des émissions de radio, de télé. J'aime beaucoup faire ce métier-là. Et pour moi, c'est un métier de communication. Et je pense que c'est ça que je préfère, qu'on communique des choses importantes, des choses qui sont drôles, des choses qui sont de toutes les sortes, on fait un contact avec les êtres humains.
En 85, on dirait que vous avez été en Italie, vous avez été frappé par un virus. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? En fait, on dirait qu'il y a un avant puis après 1985. Est-ce que ça se peut? Votre livre, c'est très bien expliqué d'ailleurs dans votre livre.
Oui, définitivement, il y a eu avant 85 et après 85. C'est sûr qu'une expérience comme celle-ci est une expérience globale. Je revenais d'un voyage en Italie avec ma famille et puis j'étais en super forme. Et mais 3 ou 4 jours plus tard, j'ai commencé à avoir des problèmes. Je suis rentrée d'urgence à l'hôpital. J'y suis restée 2 mois et demi. J'étais atteinte d'un virus qui s'appelle un Coxsackie B5. Pour ceux que ça peut intéresser. Et j'ai fait une virémie, des méningites, encéphalites, myocardites, péricardites, hépatites, toutes les hits. Le virus s'est propagé un peu partout dans mon corps en faisant des gros ravages. Et puis, lors de ces 2 mois et demi d'hospitalisation, à un moment donné, j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, une mort clinique. Je suis morte et je suis revenue. C'est sûr que, je veux dire, à l'époque, on n'en parlait pas de ce phénomène de mort clinique. C'était quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. Sauf que quand ça arrive, c'est sûr que moi, quand ça m'est arrivé, j'étais sûre que j'étais partie de l'autre côté des choses et que j'étais revenue. Et ça change tout, toute la perspective de la vie après, parce que c'est pas qu'on le sait, c'est pas qu'on l'a appris, c'est qu'on le réalise au plus profond de notre être. Il y a une continuité. Après cette vie-ci, il y en a une autre qui se continue. Et c'est la principale chose qui m'a été donnée d'apprendre. Et bien sûr, ça change tout après.
Et oui, et ce que j'ai trouvé très touchant et qui nous éveille, qui nous a éveillés, nous les lecteurs qui avons lu votre livre, c'est que vous dites aimer, aimer et encore aimer. C'est que ça, comme même si vous aviez un potentiel d'amour extraordinaire, on dirait que le verbe aimer est encore, s'est multiplié dans vos actes par la suite.
Quand on est jeune, là, surtout à l'adolescence, on se pose plein de questions sur la vie, sur la mort, sur après, avant, sur Dieu. Et toutes ces questions-là, ben, habituellement, elles restent sans réponse. Pour moi, elles étaient restées sans réponse et je me disais, mais quand je serai grande, je répondrai à ça. Mais effectivement, quand ça m'est arrivé en 85, j'étais déjà grande. Et toutes les questions que j'avais mises en suspens me sont retombées sur la tête, avec une question qui était encore plus persistante, c'est pourquoi je suis revenue? Et la réponse était comme évidente, bien que je suis revenue pour apprendre à aimer. Et je pense que c'est ça que je continue à faire et que je vais continuer à faire toute ma vie. Et pour ça, étrangement, la vie m'a mis en contact avec des enfants très malades, atteints de maladies qu'on dit potentiellement mortelles. Et j'ai fait de l'accompagnement et j'ai fait des gammes d'amour, puisque quand on aime des enfants qui s'apprêtent souvent à partir, et ceux que j'ai accompagnés, pour la plupart, ils sont décédés parce qu'ils restaient plus longtemps à l'hôpital. Bon, j'ai fait ce bénévolat, comme vous l'avez dit, à Sainte-Justine. Ben, c'est des gammes d'amour que j'ai fait. Je continue d'en faire.
C'est sûr, on parle de la mort, on parle de la vie. Ici, docteur Baruel, vous avez déjà travaillé en oncologie. C'est quand même pas facile pour un médecin d'annoncer la mort à son propre patient. Quelle est votre position là-dessus?
C'est quelque chose qui est particulièrement pénible quand je me le rappelle. C'est une période de ma vie qui a été tellement lourde et tellement difficile que très franchement, je n'ai pas pu supporter ça. Et j'ai changé de service tellement ça m'était impossible d'annoncer ça et d'accompagner les gens vers une mort certaine, sachant qu'on ne pouvait rien faire. Et la question, c'est, je me demande comment est-ce que vous faites pour arriver à faire ça? Est-ce que vous créez un monde? Est-ce que vous créez un monde artificiel avec
non,
les enfants
pas.
Est-ce que vous créez une espèce de petite bulle, vous voyez, dans laquelle la réalité n'existe pas ou que c'est une sorte de projet?
Non, c'est sûrement pas une carapace, parce que quand on veut aider les gens, que ce soit des adultes ou des enfants, si on met une carapace, si on se met dans une bulle, on n'a plus de contact. Mais évidemment, pour les enfants, c'est différent d'avec les adultes. Ils n'ont pas de regrets, ils n'ont pas des choses qu'ils n'ont pas encore faites, ils n'ont pas de choses à régler. C'est la vie à l'instant présent.
Ce que je voulais dire, c'était une bulle avec l'enfant.
Oui, disons qu'une bulle de bonheur, oui.
Ah,
c'est pour ça que quand on va faire de l'accompagnement, que ce soit avec les adultes ou les enfants, c'est très important d'apporter du bonheur, sinon autant rester chez soi. On n'est pas pour rajouter sur la tristesse, sur la colère, c'est accompagner avec le plus de bonheur possible. Je ne dis pas, oup-là-là, on ne voit pas la réalité. Non, non.
Mais comment,
on est vraiment là.
Comment accompagner avec bonheur alors qu'il n'y a pas de projet?
Les enfants ont toujours des projets. Ils ont des projets pour les 5 minutes d'après. Ils ont des projets pour la semaine suivante. Les enfants sont toujours en projet, contrairement aux adultes. Mais ce qui m'est arrivé, en fait, et qui a passablement changé les choses, c'est qu'un jour, j'étais au chevet d'une petite fille qui avait 6 ans et qui a été atteinte de leucémie. C'était sa 3e rechute. Et à un moment donné, j'étais à côté d'elle et je me suis mise à raconter une histoire parce qu'elle adorait les histoires. Et j'ai raconté l'histoire de Boule de rêve qui est devenue un livre. C'est une histoire d'un dauphin à qui il pousse des ailes et qui retourne chez lui dans sa planète de cristal pour un enfant. Mais autant pour un adulte, c'est devenu vraiment un objet d'accompagnement parce que là où ils allaient retrouver la musique, ils allaient retrouver les couleurs et la beauté. Et ça a été très, très utile, ce conte qui m'est venu comme ça. Je l'appelle une histoire magique parce que j'y ai pas pensé. Elle est arrivée juste au moment où je racontais cette histoire à une enfant qui me le demandait.
Alors, on est chanceux parce que autour de la table, on a Lise Touin qui vous connaissez, conférencière, comédienne, mais elle vient lire ici des livres. Elle en a lu pendant 4 ans. En ce moment, elle est en train de lire son propre livre. Et Dr. Baruel, vous êtes aussi un lecteur. Moi, ce qui m'interpelle, c'est du bénévolat que vous faites parce que vous lisez pour notre auditoire. Mais qu'est-ce que ça vous apporte de lire à Brotruy? Je vais commencer par vous, Lise, puis par la suite, François, vous allez peut-être nous répondre sur la question.
Première chose, j'adore lire. C'est une chose que j'adore faire. J'ai toujours lu, en autant que je me repense quand j'étais petite, je lisais. Le faire pour des gens qui ne peuvent pas le faire, c'est un beau plaisir. Et je me fais moi aussi un plaisir à moi. Parce que je rentre dans l'histoire, parce que comme je suis comédienne, m'attacher aux personnages, je peux leur donner une voix, je peux leur donner une couleur. Et voilà, c'est un plaisir pour moi que de lire. Et là, de lire mon propre livre de l'autre côté des choses, qui relate justement l'expérience dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est une autre expérience qui est profonde parce que je me retrouve il y a beaucoup d'années et je retrouve des choses que j'avais pratiquement presque oubliées. Et là, le lisant fort, je le revis beaucoup plus.
Mais c'est donner un deuxième souffle à votre livre.
Aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas vraiment lire, mais qui aiment se faire raconter les histoires.
Il a été traduit en italien, en allemand. Il a eu un succès fou, ce livre, de l'autre côté des choses.
En espagnol, oui, oui. Il m'a fait voyager beaucoup jusqu'en Afrique.
Ah, c'est vraiment bien. Et vous, Dr. Baruel, qu'est-ce que ça vous apporte de lire pour notre auditoire?
Moi, ça m'apporte, c'est j'ai l'impression de créer un monde. Je crée un monde, c'est plus que de la radio, c'est plus que lire un journal comme ça, et c'est un petit peu moins que le cinéma, mais ça laisse toute la place à l'imagination pour les auditeurs. Ouais. Et ça, c'est passionnant, parce qu'en fait, on arrive à créer en mettant plus ou moins d'intonation, en changeant les voix. J'ai l'impression d'interpréter quelque chose, et j'ai l'impression d'être un petit peu acteur dans ces moments-là.
Vous l'êtes sûrement, docteur.
Et, ça permet d'offrir des livres audio.
Lise, on comprend que vous êtes très généreuse. Vous accompagnez beaucoup, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes vers l'étape finale. Mais vous, pour votre santé, qu'est-ce que vous faites concrètement pour votre santé?
Première des choses, je n'accompagne plus les enfants comme je l'ai fait pendant plus de 12 ans.
De manière sporadique, vous
le faites encore? De manière sporadique, habituellement, c'est des adultes proches qui je les accompagne. Moi, c'est le problème de santé que j'ai, puisqu'on m'a demandé d'en parler pour faire cette émission, c'est l'arthrose. Alors, c'est sûr que c'est mon point noir dans ma vie, que j'ai souvent mal et voilà.
Et vous faites, est-ce que vous faites de la gymnastique? Qu'est-ce que vous faites pour contrer?
En fait, il y a deux choses que je fais. Parce que, disons que mon médecin de médecine officielle, tout ce qu'il pouvait faire pour moi, c'était me donner des antidouleurs et des anti-inflammatoires. Ce qui fait que j'avais de plus en plus de douleurs et de plus en plus d'inflammation. Un jour, il y a 3 ou 4 ans, je vais voir le médecin et je dis « Docteur », et j'avais des larmes qui coulaient. « Il faut que vous fassiez quelque chose, ça fait trop mal. » Et là, il m'a donné une autre prescription d'antidouleur. Et il m'a donné un autre médicament Et bon, j'ai pris la prescription, je suis arrivée à la maison. Et l'autre médicament, c'est des antidépresseurs. Et là, ça m'a donné un choc. Je ne suis pas déprimée, pas du tout. Non. Et je ne suis pas du tout du genre déprimée, j'ai juste mal. Ouais. Et sur les entrefaites, je vous en parle, j'ai vu sur Internet une publicité, des informations sur un produit naturel qui est fait en France et qui s'appelle Articulation Max 8, et qui m'a énormément fait de bien. Et en l'espace de quelques mois, j'ai pu recommencer à vivre. Bien sûr, je dis toujours, je ne suis pas toute neuve, je ne peux pas faire des choses mirobolantes, mais je peux vivre, je peux faire des marches, vous m'avez vu, j'ai absolument pas de problème. Mais ça, c'est une des choses que j'ai faites en arrêtant très rapidement, sauf aux grands besoins, là, anti-inflammatoires, antidouleurs. Et aussi, ça fait là, maintenant 10 ans, je fais de l'aquaforme. Je fais de l'entraînement dans l'eau, qui me fait pas mal, parce qu'il n'y a pas d'impact, bien sûr. Et c'est plus agréable pour moi, parce que je suis une personne qui aime l'eau. Alors, 3 fois par semaine, ça me permet, ces 2 choses-là, d'avoir une vie normale.
Vous allez mieux, c'est une bonne nouvelle.
Oui, bien sûr.
On va en prendre des bonnes nouvelles, nous. Il y a aussi une problématique qui vous touche et qui vous a interpellé de près, c'est l'Alzheimer. Votre père a souffert de cette maladie, qui est une maladie vraiment... Comment on sent impuissant face...
C'est drôle qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je répétais... pour ma lecture de demain, Vues et Voix, justement, de ce livre. Et j'étais justement au chapitre de mon papa. Et toutes les étapes de ce papa que j'aime et qui disparaît, c'est une maladie terrible. Mais en fait, le cancer, c'est une maladie terrible. Je ne suis pas la seule.
On va parler, après ce moment musical, de comment nourrir la mémoire, et puis après, ce qu'on peut faire pour surpasser l'Alzheimer des gens qu'on aime, justement. Do I want you? Oh my, do I? Honey, did I do? Do I need you? Oh my. Do I, honey, did I do? I'm glad that I'm the one who found you. That's why I'm always hanging around you. Do I love you? Oh my, do I, honey, did I do?
Always hanging round you. Do I love you? Oh my, do I? Honey, did I do?
Nous sommes donc avec Louise Douin et nous allons maintenant explorer comment nourrir les cerveaux atteints de la maladie d'Alzheimer avec Claudine Larivière.
Bonjour.
Bonjour Claudine, vous allez bien ?
Oui, ça va bien vous-même.
Très bien. Donc Claudine est nutritionniste et aussi spécialiste en productivité humaine.
Exact.
Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il serait possible de parler de Comment nourrir notre cerveau finalement et comment faire pour qu'il soit en santé?
Oui, ben en fait, c'est que le cerveau, au même titre que les autres organes vitaux dans notre corps, il faut vraiment en prendre soin. Et comme toute chose, il vaut mieux prévenir que guérir. Dans le cas des maladies dégénératives ou les maladies chroniques, c'est sûr que des fois, on a une composante qui est génétique, héréditaire, qu'on peut pas vraiment contourner. Mais par contre, dans les habitudes de tous les jours, on a la possibilité de faire des choix alimentaires qui vont nous aider justement à protéger notre santé cognitive, notre cœur aussi. On sait que le cerveau est très, très, très vascularisé. Alors, il y a beaucoup de circulation sanguine, il y a beaucoup de veines, il y a beaucoup d'artères. Donc, l'idée, c'est vraiment de protéger et de prévenir aussi que nos aliments puissent abîmer toutes ces belles fonctions-là. Donc, la première chose qu'on veut faire, c'est vraiment stabiliser la glycémie. Quand on a une glycémie qui est trop élevée, donc quand notre sucre dans le sang est beaucoup trop élevé, ben on le sait, hein, ça rend le sang beaucoup plus épais. Donc, c'est plus difficile de se promener dans les plus petites artères, les plus petites veines dans notre corps. Puis le cerveau est vraiment une victime de ça, en fait, parce que c'est vascularisé avec plein de petites veines. Puis vous devez être d'accord avec moi, là, Dr. Barouel, là, c'est quand même petit ce qui se passe là. Et donc, c'est ça, c'est super important de faire des choix qui vont stabiliser notre glycémie. Donc, des aliments qui sont pas trop riches en sucre raffiné, des aliments qui vont vraiment nous donner de l'énergie, mais sans nous faire fructifier.
Pas de sucre rapide, en fait.
Exactement. Donc, la deuxième chose, c'est vraiment les acides gras. En fait, on entend beaucoup parler des oméga 3, les oméga 6, les oméga 9. Les acides gras essentiels, c'est ceux que notre corps, en fait, est pas capable de produire. Donc, il faut absolument qu'on le mange dans nos aliments tous les jours pour pouvoir l'acquérir dans le système puis pouvoir les utiliser par la suite, en fait. Donc, les oméga 3, je sais pas si vous êtes connaisseur de ça, là. Je sais pas si ça vous parle.
Ben, je connais le rapport entre les oméga 3 et les oméga 6.
Oui.
Voilà, ouais, il faut un rapport qui soit égal à 1.
Oui, exactement. C'est très technique. Donc, si le corps est capable de produire les oméga 6, ça veut dire qu'il faut aller chercher quand même une bonne quantité dans notre alimentation. Donc, est-ce que vous avez un peu les sources d'oméga 3?
Comment?
Je ne sais pas, Lise et Dr. Barouel, est-ce que vous connaissez où on trouve les oméga 3 dans l'alimentation?
Ah, dans le poisson! Le saumon, tous les poissons gras. Les amandes, les noix.
Oui, absolument.
Les avocats?
Les avocats aussi. Absolument. Donc, les oméga 3, il faut absolument que ce soit un aliment qui contient du gras, évidemment. C'est un acide gras essentiel. Donc, tout ce qui est poisson rose, ce sont des poissons qui sont plus gras, mais qui sont excellents, justement, une excellente source d'oméga 3. Fait qu'on veut vraiment, les intégrer le plus possible. Les noix aussi, super bonne source d'acide gras. Puis notre super aliment, l'avocat, mais lui, c'est sûr, là, c'est l'aliment le plus nutritif, hein, donc on ne peut pas se tromper avec ça. Après ça, c'est sûr qu'il faut faire attention aux quantités, n'est-ce pas?
Est-ce que le régime crétois permet d'apporter des oméga-3?
Le régime crétois?
De la crête, huile d'olive et tout?
Oui, huile d'olive, olive, fromage.
Oui, ben toutes les huiles végétales, donc tous les corps gras végétales vont contenir des oméga 3, la quantité va différer, mais oui, la plupart du temps, on va retrouver les acides gras essentiels. Ce sont pas toutes les sources animales, par contre, qui vont en contenir. Donc, c'est sûr que d'intégrer des choix végétaux plus souvent, ça l'aide beaucoup en avoir plus. Là, c'est ça.
J'aime bien ça, le régime crétois, parce qu'en plus, d'un point de vue cardiovasculaire, c'est aussi très bon.
Mais c'est bon.
Et c'est bon en plus.
Et c'est surtout très bon.
c'est très bon. Mmh.
Oui. C'est bon goût, c'est bon pour le corps, on aime ça, on a même plein de plaisir dans l'alimentation, on aime ça au goût. Ensuite de ça, il y a aussi l'acide aminé tryptophane, on n'en parle pas beaucoup, mais le tryptophane, c'est un aliment qu'on va retrouver encore là dans les aliments végétaux, mais cette fois-ci, on va en trouver aussi dans les aliments plus de sources animales. Donc, on peut aller en chercher dans certaines viandes, mais les viandes qui sont vraiment à éviter dans le cas de justement la santé de notre cerveau.
C'est l'acide aminé qu'on ne trouve, que c'est le seul acide aminé qu'on ne trouve pas dans les végétaux, je crois, non?
C'est ça, c'est plus, c'est beaucoup plus dans les sources animales, exactement.
Ouais. C'est ça.
Ouais. Donc à ce moment-là, on peut en trouver un peu dans les végétaux, mais l'absorption elle va être un peu différente. Mais mmh. On peut en trouver, absolument.
À votre avis, quels sont les aliments à éviter justement pour ne pas abîmer son cerveau? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger?
Ben, en fait, les aliments à éviter, c'est vraiment les viandes rouges, les fromages, le beurre et les sucres raffinés, parce que ces aliments contiennent beaucoup trop d'antinutriments. Donc, c'est très contre-productif quand on essaie de faire la prévention et prévenir beaucoup l'inflammation de nos cellules dans notre corps, donc ce qui nous compose. Quand on veut créer un effet vraiment protecteur, si on tend à aller vers ces aliments, ben c'est sûr que ça devient des antinutriments, c'est-à-dire que c'est contre-productif, ça va faire l'effet contraire.
C'est malheureux parce que c'est quand même toutes ces viandes rouges, tout ce que vous avez dit là, c'est exactement un repas de fête.
Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un enfant.
C'est malheureux quand même.
Je m'arrange.
Dans ma pratique, je pense que c'est important, je vous dis toujours, d'avoir du plaisir. Donc, ce n'est pas d'éliminer complètement. Si on se retrouve dans un contexte social où c'est vraiment critique, où bon, il va y avoir la viande, ça va être les fêtes, ben, on peut se permettre. On parle toujours du repas plaisir. Certaines personnes vont dire, ah, c'est mon repas tricherie. Moi, je n'aime juste pas cette terminologie-là. Mais le repas plaisir, je pense que c'est important d'en avoir un par semaine où on mange quelque chose qu'on sait qui n'est pas nécessairement super bon pour la santé si c'est consommé trop régulièrement, mais que si on le consomme à l'occasion, ben, dans le contexte d'une alimentation santé, dans le contexte d'un style de vie qui est bien équilibré et santé, mais ce repas-là ne va pas abîmer notre corps. Là.
OK. Est-ce que vous pouvez rappeler pour nos auditeurs quels sont les éléments à manger pour avoir un bon cerveau qui fonctionne bien?
Oui, ben en fait, tout ce qui est fruits et légumes colorés, donc on sait que les fruits et légumes, le plus colorés ils sont, le plus d'antioxydants ils vont avoir, donc le plus de nutriments on est capable d'aller chercher, donc on va pouvoir nourrir notre cerveau. Tout ce qui est grain entier aussi, donc le moins procédé possible, si on prend de l'avoine par exemple, on pourrait prendre de l'avoine, on va dire « steel cut », donc le terme francophone m'échappe, je m'excuse, mais c'est vraiment des grains qui sont le moins transformés possible, donc qui contiennent encore la fibre soluble, la fibre insoluble, qui va nous aider aussi à mieux absorber nos nutriments. Comme on l'a dit, c'est les poissons, mais d'aller vers des poissons rosés, donc des poissons à chair rose, les huiles d'olive, comme vous l'avez mentionné, et ça là, je pense qu'on va faire des heureux, le fameux vin. Donc, le vin, le vin consommé modérément, régulièrement, peut contribuer à la santé cognitive et la santé du cœur, évidemment.
Merci beaucoup. Ouais. C'est vraiment très gentil de nous faire ce menu-là. Ça nous plaît bien, en fait. Hein,
merci
pas mal.
Infiniment. Et on voit, Dr Baruel, que vous êtes un épicurien.
Absolument. On est tous des épicuriens, en fait.
Merci beaucoup, Claudine.
Merci.
Nutritionniste et spécialiste en productivité humaine. Merci.
Merci.
Merci. Au revoir.
Stéthoscope.
Maintenant, la rubrique stéthoscope. Et aujourd'hui, le stéthoscope, on ne va pas l'utiliser pour ausculter, mais on va l'utiliser au contraire pour faire entendre quelques éléments à propos des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Il s'agit de, en fait, plusieurs éléments qui sont importants. C'est que les patients qui sont atteints de maladie d'Alzheimer sont des personnes qu'il faut d'abord respecter. Souvent, on les traite, on les prend pour des gens qui sont sans intérêt, mais ils ont des plaisirs et ils ont des réflexions, des petits plaisirs, des petits riens. On leur donne un petit objet et ils sont heureux. On peut leur donner un manteau, par exemple. On a vu l'exemple d'un garçon à qui on a donné un manteau, enfin une personne âgée à qui on a donné un manteau, puis qui l'a examiné pendant une demi-heure, poche par poche, petit rabat, couture, etc. Parce que ça lui faisait plaisir, en fait, d'examiner ça. De la même manière, on peut leur donner des animaux, on peut leur amener des animaux, des enfants, Et ça, ils sont sensibles à leur présence. Et il ne faut surtout pas les en priver. Et pourtant, on a tendance à le faire. Et s'ils parlent, s'ils répètent en permanence les choses, même s'ils posent 20 fois la même question, je me souviens d'un patient qui me disait « Eh, vous ne pourriez pas me ramener à Paris ?»« Eh, vous ne pourriez pas me ramener à Paris ?» Je disais « Mais non !» À l'époque, j'avais une moto. Et je disais « Mais non, sur ma moto, vous ne pourriez pas ?» Et à chaque fois, il me reposait la question. Et finalement, il était content de poser la question parce qu'il rentrait en contact avec moi. Donc à chaque fois, je répétais la même chose. Et on se dit « Mais alors, il faut passer un temps fou ?» Mais je crois qu'il faut se dire qu'il n'y a jamais de rentabilité dans la relation avec un patient Alzheimer. Il faut vraiment se dire qu'on lui donne du temps et qu'on ne cherche pas une rentabilité. Enfin, il y a d'autres choses encore comme ça. C'est qu'il ne faut pas non plus les remettre dans la vérité, leur dire « Mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, souviens-toi » ou « Mais enfin, c'est pas comme ça ». Ça les met en colère, ça les angoisse et ils sont au contraire plutôt déprimés ou ils sont d'une grande tristesse. Et enfin, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils vivent dans le passé, facilement. Donc quand on leur présente des photos de quand ils étaient petits ou quand ils étaient jeunes, même si c'est la personne qui est à côté de lui qui lui présente cette photo, même si c'était sa maîtresse ou son amant, il va peut-être dire « Ah, c'est vrai, je l'ai aimé cette personne ». Et c'est à ce moment-là qu'en fait il est heureux, l'Alzheimer, la personne atteinte de l'Alzheimer.
Il y a les chansons aussi.
Et il y a les chansons aussi, bien sûr.
Ça, oui. Ils s'en souviennent.
Le titre de l'article, c'est paru dans le Huffington Post de 2014. Et ça s'appelle « Come back early today, a memoir of love, Alzheimer's and joys ».
Mourir sans pourtant mourir, mourir éternellement. Le désespoir tue encore, sinon la vie, mourir la mort. Ma désespérance, mon manque d'espoir, c'est ma révérence, c'est le désespoir. Un battement d'œil, juste un sillement, papillon en deuil, éternel. Au nom de la vie, l'infirmière sourit, l'homme et l'au-delà choisiront pour moi le droit à la vie, même à l'agonie, plutôt le trépas que la mort de soi. Mourir sans pourtant mourir, mourir éternellement. Le désespoir tue encore, sinon la vie, mourir la mort. Et dépossédé de soi-même ensemble, c'est la liberté qui résiste à l'homme. Mourir sans pourtant mourir, mourir éternellement. Le désespoir tue encore, sinon la vie, mourir la mort. À mourir amer, à mourir de rien, la mort à l'envers me ramène en vain à ne pouvoir mourir. Son dernier regard, les yeux de ma mère, c'est le désespoir.
Donc, de retour, c'est bon pour la santé. Et nous sommes avec Nathalie Vien, travailleuse sociale, formatrice et conférencière à la maison Montbourquette. Donc, puisque nous sommes avec Lise Douin, on a profité de l'occasion pour parler un tantinet du deuil. J'ai une première question à vous demander.
Oui?
Est-ce qu'il y a une pilule qui arrête ce chagrin horrible et profond lorsqu'on est en deuil? Est-ce qu'on peut prendre une pilule et puis on se dit c'est terminé ou il faut passer à travers les différentes étapes du deuil? Je vais prendre la pilule, moi.
Malheureusement, j'ai pas de pilule à vous proposer. Par contre, je peux vous dire que c'est possible, que l'être humain a le cœur suffisamment grand pour traverser cette période de douleur qui est le processus de deuil. L'être humain a la capacité de traverser cette adaptation qui va être nécessaire à la suite de la perte d'un être cher.
Donc, c'est un passage obligé. On peut pas s'en sortir. On peut pas prendre des raccourcis.
Ben, il y a des gens, parfois, que j'observe, qui prennent des raccourcis, qui mettent ça de côté, ils mettent ça en dessous du tapis, ils veulent pas parler du deuil, ils refusent d'exprimer leurs émotions. Et des fois, ce qui très souvent se passe, c'est que c'est seulement reporté dans le temps. Le tapis, à un moment donné, il va être secoué, la personne, elle va se retrouver peut-être à la retraite ou lors d'une maladie où elle va être alitée, elle pourra pas bouger, elle va avoir, ou lors des vacances. Un moment de fragilité va faire en sorte que cette période de deuil qui aura pas été vécue va remonter et à ce moment-là, les émotions aussi vont avoir besoin d'être libérées.
Est-ce qu'on doit tous prendre une thérapie de groupe ou consulter lorsqu'on est en deuil?
Bien, en fait, je dirais pas une thérapie dans le sens que ce que les gens ont besoin, c'est d'être accompagnés. J'ai pas besoin d'être accompagné par un psychologue, un psychothérapeute nécessairement. Je peux être accompagné par les gens autour de moi, ma famille, mes amis, des gens en qui j'ai confiance. Donc, je peux être accompagné par mon réseau de soutien dans ma vie quotidienne. Et oui, à l'occasion, je peux demander de l'aide d'un aidant professionnel. Ça peut être des bénévoles dans des organisations, ça peut être des psychologues, des travailleurs sociaux. Mais oui, si j'ai la personne en deuil en ressent le besoin, il peut être très utile de demander de l'aide et d'avoir un espace pour raconter son histoire. Surtout, je dirais, dans un contexte où dans notre société, la mort et le deuil sont des sujets tabous. Donc, socialement, les gens, collectivement, nous refusons de parler. C'est très rare que les gens veulent parler de la mort. Donc, il est fort possible que dans le réseau, dans l'entourage de la personne en deuil, c'est très possible que les gens soient inconfortables, mal à l'aise de parler de ça et que rapidement, les gens veulent tourner la page. Et donc, à ce moment-là, un aidant professionnel va permettre à la personne en deuil de pouvoir, dans le temps, aussi longtemps qu'elle a besoin, avoir le soutien de quelqu'un qui va l'écouter.
C'est vrai, j'ai l'impression à travers les lectures et les témoignages que j'ai écoutés que les gens en deuil sont parfois isolés. On dirait que ça dérange et beaucoup se sentent isolés, ostratisés. Même j'ai parlé dans le cadre de ma profession à titre de journaliste et recherchiste, on dirait qu'il n'y a pas d'interstice pour les endeuillés. Les psychiatres disent vous n'avez pas de maladie, mais le deuil est seul et c'est plus à quel saint se vouer. Est-ce que ça se peut que deuil égale solitude? En fait, on dirait que c'est presque un luxe d'être en deuil. C'est-à-dire que tu pleures, tu te sens seul, puis là, on dirait que ça dérange tout le monde. Est-ce que je me trompe un petit peu dans mon analyse?
Ouais, en fait, c'est que comme la mort est un sujet tabou, les endeuillés, ils dérangent hein, l'entourage qui veut pas penser à la mort, et veut pas réfléchir à cet élément-là qui existe. Donc, les endeuillés, ils se retrouvent seuls à porter la mort comme si c'était un problème personnel. Donc, ils ont ce fardeau-là sur les épaules, alors qu'en fait, la mort, le deuil, ce n'est pas un problème personnel, c'est une réalité universelle. La mort existe comme la vie existe. Les deux, c'est plutôt un paradoxe. Jean Montbourquette disait ça souvent. La vie, la mort cohabitent ensemble. Donc, je n'ai pas à lutter ou à résoudre un paradoxe comme si c'était un problème parce que ça n'en est pas. Qu'est-ce que je peux faire? C'est d'accepter. Accepter que la mort existe. Et tout autant, par exemple, où les endeuillés vont devoir reconnaître que malgré tout l'amour que j'ai pour mon proche, que ce soit mon conjoint, mon enfant, mon père, ma mère, malgré tout l'amour que j'ai pour mon proche, je n'ai pas le pouvoir de faire en sorte qu'elle ne soit pas décédée.
Et ça, ça risque de me faire vivre un grand sentiment d'impuissance. Et l'être humain n'aime pas beaucoup le sentiment d'impuissance, surtout pas nos sociétés occidentales où c'est comme une atteinte à notre intelligence, à notre savoir. Il faut tout contrôler. Il faut tout contrôler. Et la mort, ça nous amène une impuissance totale.
Donc, finalement, les gens, parfois, qui tournent le dos à leurs proches ou les amis, c'est-à-dire que en fait, ils veulent eux-mêmes se libérer de ce fardeau. C'est-à-dire, quand tu vas être heureuse ou heureux, moi, je veux l'être aussi. Donc, en attendant, on préférait faire bande à part.
Oui, parce qu'en fait, si je parle à ma voisine ou à quelqu'un, à ma collègue qui est au travail, qui est en deuil, comment ça se passe ton deuil depuis que ton mari est décédé ou depuis que ton enfant s'est suicidé ou que ta mère est décédée de l'Alzheimer, par exemple? Comment ça se passe pour toi? Quand je fais ce geste-là d'offrir mon soutien à ma collègue ou à mon ami, je me place personnellement dans une position où je vais devoir réaliser que, waouh, la mort existe. Si c'est arrivé à elle, cela peut arriver à moi. Je peux, moi aussi, perdre ma mère, mon conjoint, mon enfant. Et ça, ça m'amène un inconfort que les gens, en général, n'ont pas envie de ressentir. Donc, ils vont se tasser des personnes en deuil, ce qui isole les personnes en deuil. Par contre, l'entourage, à mon point de vue, se prive d'un grand apprivoisement, un grand apprentissage, parce que les personnes en deuil autour de moi, ils me permettent d'apprivoiser la mort tranquillement, alors que je ne suis pas dans cette position-là.
Oui, parce que les gens qui vivent un deuil, on le voit souvent à la télé, ils sont vraiment brassés, là. C'est un remue-ménage extraordinaire. Ils sont transformés par cet événement-là. Est-ce que parfois, il y en a peut-être qui peuvent devenir plus sereins suite à ce bouleversement intérieur?
Par rapport à la personne en deuil qui vit, traverse le deuil?
Mais vivre un deuil, tout simplement, je veux dire.
Oui, parce qu'en fait, quand je vis un deuil, qu'est-ce que ça veut dire un deuil? Ça veut dire que je vais m'adapter à cet événement-là qui est arrivé, qui est la mort de mon proche. Donc, je vais m'adapter, bien sûr, ça veut dire émotionnellement, je vais exprimer mes émotions. Au niveau de la logistique aussi, est-ce que je dois déménager? Est-ce que ça change ma situation financière? Est-ce que cette personne-là, c'était mon confident? Donc, je dois me trouver un autre confident. Donc, il y a beaucoup de tâches à faire dans le processus de deuil. Donc, quand je vais jusqu'à la fin de mon deuil, donc quand je traverse le deuil jusqu'au bout, bien, ça va me permettre à la fin d'avoir une adaptation par rapport à l'événement et de retrouver ma paix intérieure. Évidemment, je ne pourrais jamais revenir comme avant, parce qu'avant, la personne était vivante, mais je peux retrouver ma paix, ma joie de vivre, tout en acceptant d'avoir été transformée.
C'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, vous faites beaucoup pour les endeuillés. La maison Bobroquette, vous avez une ligne d'écoute. J'aimerais que vous nous parliez de ce que vous offrez comme service. Oui. On veut tout savoir.
Alors oui, la maison Montbourquette, c'est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes en deuil suite à un décès. Et pour remplir nos services, on a pour remplir notre mission, on a différents services. Donc, une ligne d'écoute qui est disponible gratuitement à travers le Québec par un numéro 1-888 le deuil. Et donc, il y a cette ligne d'écoute qui est disponible à travers le Québec. Pour les gens qui peuvent se déplacer à nos bureaux à Montréal, nous avons aussi des suivis individuels, groupes de soutien, musicothérapie, des services pour les enfants, les adolescents, les adultes, les hommes aussi qui vivent des deuils. Donc, il y a tout le volet pour les personnes en deuil. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet maisonmontbourquette.com. Et nous avons aussi un volet pour les professionnels qui veulent s'outiller à accompagner des personnes en deuil, parce que parfois les professionnels sont aussi mal à l'aise par rapport à la mort et au deuil. Donc, vous allez retrouver toutes les formations et les conférences que nous offrons sur le site formationmontbourquette.com.
Merci infiniment. Et aussi, il y a plein de livres sur le marché qui a été rédigé par M. Montbourquette lui-même. Merci infiniment de votre présence. Écoutez, vous nous avez rassurés.
Merci beaucoup. C'est un
merci
plaisir.
Merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité.
People
Bonjour Madame Marilyn Fournier.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc directrice générale du réseau de l'action bénévole du Québec et nous sommes en compagnie de Lise Thouin. Et le bénévolat, nous avons plusieurs questions à vous poser en fait. Le bénévolat, c'est une dimension qui est très importante dans la vie de notre invité, Lise Thouin. Mais au Canada, combien de personnes font du bénévolat?
En fait, les dernières statistiques qu'on a de disponibles à ce sujet-là au niveau canadien datent de 2013, alors ça fait déjà 5 ans. Mais en 2013, on estimait qu'au Canada, 12,7 millions de personnes étaient bénévoles auprès d'organismes. Mmh. Donc, ça représentait 44 % de la population canadienne. Évidemment, ce pourcentage et ce nombre de personnes-là ne considèrent que les gens qui font du bénévolat de façon organisée, c'est-à-dire de façon officiellement rattachée à une organisation bénévole. Par contre, cette même étude de Bénévoles Canada de 2013 notait que le taux de bénévolat non encadré, donc les gens qui font du bénévolat pour quelqu'un qui n'habite pas dans leur maison, était de 82 %.
Ouf.
Alors, ce pourcentage-là est beaucoup plus élevé, évidemment, que le 44 % qui sont officiellement impliqués auprès d'organismes. Ces données, comme je vous dis, datent de 2013. Il y a une nouvelle étude en cours pan-canadienne actuellement à l'heure où on se parle.
D'accord, oui, mais c'est très impressionnant, hein. C'est quand même énorme en réalité, si 82% de la population se fait du bénévolat, que ce soit spontané ou encadré, c'est quand même merveilleux. À propos de l'encadrement, votre organisation, qui est le Réseau de l'Action Bénévole du Québec, il y a 26 organismes, n'est-ce pas, de provinciaux?
En fait, nous, on réunit nos membres, ce sont des regroupements d'organismes. Donc, par exemple, nous avons parmi nos membres le regroupement des popotes roulantes du Québec. Alors, chaque popote roulante n'est pas membre du RABQ, mais son regroupement l'est. Alors, si on regarde de cette façon, nous avons 26 regroupements d'organismes qui sont membres du RABQ. Et ces organismes-là, donc ces regroupements-là, regroupent même 7000 organismes bénévoles à travers le Québec et plus de 1,6 million de bénévoles qui sont impliqués à l'intérieur de ces organismes-là.
Mais ça, c'est une véritable... On pourrait presque parler d'entreprise, en réalité. C'est impressionnant. C'est presque des PME, des petites et moyennes entreprises, en fait.
En fait, une organisation à but non lucratif.
Ouais.
À but non lucratif. Alors, mais oui, effectivement, nous avons une petite équipe de travail pour soutenir beaucoup, beaucoup d'organismes bénévoles à travers le Québec.
Et le bénévolat, c'est évidemment pour aider la population, mais je pense que les bénévoles eux-mêmes en tirent un certain avantage, non?
Oui, tout à fait. Il y a différentes études qui ont été faites sur le bénévolat et les différents impacts positifs que le bénévolat peut amener, que ce soit au niveau de la santé physique, de la santé mentale, de l'employabilité. Il y a différents bienfaits qu'on peut retrouver à faire du bénévolat. Évidemment, si on regarde au niveau de la santé mentale, toute la question de l'isolement vient être contrée par le bénévolat qui permet de développer un réseau social différent de ce qu'on a à la base. Ensuite de ça, évidemment que le bénévolat permet aussi de rehausser la confiance en soi. Et une étude qui a été réalisée en 2013 le démontrait que les bénévoles étaient de meilleure humeur de façon générale que les non-bénévoles.
Oui, ils sont probablement moins déprimés, j'imagine, aussi.
Oui, exactement. Ils sont moins déprimés, tout à fait. Je vous dirais même sur la santé physique. Évidemment, le fait de rester actif vient éloigner des problèmes liés, entre autres, à l'inactivité physique, dont les problèmes cardiaques. Mmh. Et une étude aussi qui avait été faite en 2006, et ça m'a beaucoup étonnée, même au niveau sur l'effet sur la tension artérielle, les bénévoles avaient moins de chances de développer des problèmes de tension artérielle que les moins bénévoles.
Exact.
Que les non-bénévoles,
voilà. Ça, oui, ça c'est vrai que je l'ai lu aussi et ça c'est assez impressionnant. C'est, ça donc nous pousse à conseiller aux patients qui sont à risque de faire du bénévolat. Mais je voulais aussi parler de chez les enfants en réalité. J'ai vu qu'il y avait une amélioration de l'insertion des enfants qui sont parfois en situation d'échec, une amélioration aussi de leurs notes, de leur intérêt dans les études.
Oui, c'est fort possible. Honnêtement, je me suis pas documentée sur cet aspect-là particulièrement. Nous, on s'est concentré sur les jeunes à partir de 15 ans au niveau des impacts que ça pouvait avoir. Mais j'ai aucun doute que chez les jeunes enfants. En fait, ce qu'on a vu, nous, dans une dernière étude qui a été réalisée par Léger, c'est que le fait de voir nos parents faire du bénévolat a une très grande incidence sur les enfants à faire eux-mêmes du bénévolat, soit au moment où ils sont enfants ou adolescents ou plus tard. Alors ça, il y avait une distinction assez importante entre les non-bénévoles et les bénévoles, à savoir si leurs enfants faisaient du bénévolat.
Les garçons ou les filles font du bénévolat? Il y en a plus? Lequel fait plus de bénévolat?
C'est assez équitable.
C'est assez équitable.
Oui, c'est assez équitable. Ce qu'on va retrouver, par contre, c'est au niveau des tâches effectuées. Si on regarde par rapport aux femmes, elles seront plus nombreuses à donner du temps au niveau de l'accompagnement pour des soins de santé, par exemple, ou de l'accompagnement de transport pour des bénéficiaires, alors que les hommes seront plus actifs au niveau de l'organisation d'événements et plus présents aussi sur les conseils d'administration, c'est encore vrai.
Est-ce que vous pensez que ça serait utile de faire un bénévolat un peu, peut-être obligatoire à l'école?
En fait, on parlerait ici plutôt pour, à notre avis, au niveau du RABQ, d'implication citoyenne, de participation sociale. Il y a toute une question actuellement au Québec sur la définition de ce que c'est le bénévolat. Donc, à la base, le bénévolat devrait être un geste libre et gratuit. Donc, si on ramène la notion de bénévolat obligatoire, on n'est plus tellement dans le bénévolat que dans l'implication sociale ou citoyenne. Mais oui, évidemment, que le fait de s'impliquer de façon obligée en étant plus jeune peut inciter les gens à poursuivre leur bénévolat. C'est la même chose qu'on remarque, par exemple, chez le bénévolat appuyé par l'employeur. Lorsque les employeurs organisent des journées pour aller donner du temps à un organisme bénévole, des fois, les employés continuent d'être payés pendant cette période-là. Donc, c'est pas tant du bénévolat que de l'implication sociale. Par contre, une bonne proportion de ces mêmes employés vont revenir dans l'organisme comme bénévole sur leur propre chef. Donc, ce genre d'initiative-là incite les gens par la suite à s'impliquer vraiment bénévolement sur une base libre et gratuite.
Et si on veut faire du bénévolat au Canada ou au Québec, comment est-ce qu'on le fait?
En fait, au Québec, il y a une plateforme web qui a été créée il y a quelques mois et c'est tout nouveau. C'est le site internet jebénévole.ca. Sur ce site, vous avez beaucoup d'organisations qui ont affiché des offres de bénévolat et les candidats bénévoles peuvent se créer un profil et en fonction des intérêts, il y a un jumelage qui se fait. Mm-hmm. Donc, cette plateforme, elle est portée par la Fédération des centres d'action bénévole. Donc, au Québec, c'est jebénévole.ca et l'équivalent canadien, qui n'est pas porté par la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, mais qui est le même principe, c'est youth.volunteer.ca. Donc, ce serait le site Internet canadien pour faire du jumelage là, entre les candidats bénévoles et les organisations.
Merci beaucoup, Mme Marilyn Fournier. Je rappelle que vous êtes directrice générale du Réseau de l'Action bénévole du Québec. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'était très intéressant. Merci.
Ça me fait grandement plaisir.
Merci beaucoup.
Bonne journée. Bye.
Alors, nous sommes de retour en onde avec la radiologiste Ouin et le docteur Baruel qui s'y rassura. Semaine après semaine, on va mieux dès qu'on le voit. On voudrait parler ici autour de la table d'un livre qui s'appelle Les microbes, nos alliés. Alors, c'est un livre qui a été rédigé par Brett Funnelly, professeur de microbiologie à l'Université de Colombie-Britannique, et sa comparse Marie-Claire Arietta, professeure de l'Université de Calgary. Alors, ils ont établi, elle a établi un lien avec l'asthme et les jeunes enfants. Ils se sont beaucoup intéressés donc aux bactéries, aux microbes. Ça vient de sortir, c'est en fait une traduction anglaise. Vous avez vu que mon anglais est extraordinaire, donc je ne vous dirai pas le titre en anglais, mais c'est édition très carrée.
Moi non plus.
Vous êtes très bon en anglais tantôt. Vous avez fait la preuve comme quoi que vous étiez très fluente, très, très, très fluente. Ah, donc, on a lu un chapitre avec le docteur Baruel. Alors, on parle de microbiote. Bon, microbiote, c'est quoi en fait, tout le long du livre, il parle donc de microbes, l'impact des microbes, les bactéries, l'intestin. Tout le long du livre, on parle donc de manière très technique et très poussée de microbes, de bactéries, de plein de choses très intéressantes, ma foi. Mais la seule chose que je me suis dit, je ne prendrai plus jamais le verre de quelqu'un pour boire. Tu sais, quand tu passes moi ton verre, je vais prendre une gorgée. Plus jamais, je vais prendre une gorgée.
Alors, il faut juste avant lui demander s'il a de l'herpès buccal. Et sinon, c'est au contraire très intéressant parce que ça apporte des germes qui sont différents. Il faut le savoir, ça.
Quand je bois dans le 7-Up de quelqu'un d'autre.
Mais absolument, s'il n'a pas d'herpès, c'est important. C'est à un moment, je vais être un petit peu provocant, c'est qu'en fait, à un moment, on disait justement que le French kiss était justement une manière de s'immuniser.
Oui, docteur Baruel.
Car il y avait des échanges de germes.
Docteur Baruel, moi qui me cherche l'âme sœur, je ne me vois pas dire à ma nouvelle flamme, est-ce que tu as de l'herpès avant que je prenne une gorgée dans ton verre de vin?
Et pourquoi pas?
Ah bon, en tout cas. Alors, c'est quoi un microbiote?
Un microbiote, c'est l'ensemble de tous les germes qu'il y a, mais vous avez plusieurs microbiotes. Il y a des microbiotes de la peau, des microbiotes de l'intestin, des microbiotes, et c'est le plus important d'ailleurs, et l'ensemble de tous les microbiotes, mais il y en a aussi dans les voies génitales, chez la femme, il y en a partout en fait des microbiotes. Et donc l'ensemble c'est un microbiome, c'est-à-dire un monde de microbes. Et ce sont des microbes qui sont très... Les microbes sont plus importants presque que nous, enfin en nombre.
En nombre certainement.
Car
ouais.
Il y a plus de germes et plus de microbes que de cellules chez nous dans notre corps.
Mais en quoi ça change notre rapport à la santé de savoir c'est quoi un microbiote?
Alors, de savoir que ce qu'est un microbiote, ça ne change pas grand-chose. Par contre, l'important, c'est de le soigner et de le conserver et de le nourrir. Parce que sans le microbiote, on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas avoir une digestion correcte. Et on sait maintenant que le tube digestif, avec son microbiote, est quelque chose de très important puisqu'il envoie des hormones au cerveau qui permettent de réagir différemment à des situations différentes. Et d'ailleurs, on le sent très bien, c'est que si on a un peu mal au ventre et qu'on a une colite, ce qu'on appelle une colite, c'est-à-dire des spasmes qui sont dus à une anomalie du microbiote, eh ben on a perdu tout son tonus. On n'a vraiment pas de tonus, en fait.
C'est quoi la différence entre un microbiote et une bactérie?
Le microbiote est constitué de toutes les bactéries qui sont contenues dans un endroit.
Et puis, est-ce que le microbiote change d'un être humain à l'autre?
Le microbiote change d'un être humain à l'autre. Et notamment, il change même chez le bébé, selon ce qu'il est né, soit par voie naturelle, par voie basse. À ce moment-là, il récupère tous les germes, une partie des germes vaginaux ou rectaux, puisqu'il passe par la filière basse, et il aura un microbiote qui sera de meilleure qualité probablement que celui qui sera né par voie césarienne. C'est-à-dire que lui, il ne sera pas du tout au contact avec ces endroits qui sont pleins de germes. Donc, il lui faudra plus de temps pour fabriquer un microbiote.
Mais c'est quoi la vertu d'un microbiote? Est-ce que ça nous protège ou ça nous nuit? Je ne comprends plus rien.
Le microbiote, ça vous protège. Eh oui, ça vous protège.
OK, ça en prend.
Oui, c'est très important, en fait.
OK, je comprends. Et est-ce que d'un pays à l'autre, on a tous les mêmes microbiotes?
Oh non, pas, certainement pas. Je n'ai pas fait d'études, en fait.
Mais ça ne dépend pas de la nourriture ?
Ça dépend de la nourriture, bien sûr. Parce qu'en fait, le microbiote se nourrit des fibres, principalement. C'est pour ça que, par exemple, je vous donne un exemple. Le jus de fruits, c'est très bon. On peut prendre un jus de fruits. Un jus de fruits pur, c'est-à-dire un vrai jus de fruits d'un fruit qu'on presse, n'est-ce pas ? Je ne prends pas des bouteilles, hein, parce que là, c'est souvent des produits sucrés, etc. Mais il faut en fait plutôt prendre un fruit avec sa pulpe, parce que la pulpe, elle, va nourrir le microbiote. Et ça, c'est indispensable. Mais je voudrais vous dire, le rôle du microbiote, c'est quelque chose de très important. Et je vais vous donner un autre exemple.
Ça fait intellectuel dans une conversation, dans un souper. Parlons microbiote.
Oui, je vais vous parler. Alors, comment va votre microbiote? En fait, le microbiote, c'est plus que des germes qui sont là. C'est qu'en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a très, très longtemps, nous avons été infestés par des virus et les virus sont rentrés dans les cellules. C'est un petit exemple comme ça. Mais ce virus maintenant, on le retrouve dans toutes les cellules de l'humain et il est devenu un commensal, c'est-à-dire en fait un associé. Et c'est la mitochondrie. La mitochondrie, c'est un ancien virus qui est maintenant fait partie de la cellule humaine et c'est sa petite centrale électrique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui fait toute l'énergie de la cellule. Et la cellule vit grâce à la mitochondrie. Si on retire la mitochondrie, la cellule meurt. Alors que c'était un virus au départ. C'est quand même, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Donc ça c'est un cas particulier du microbiote, mais les autres microbiotes, tous les autres, de la peau, du tube digestif, etc., sont absolument indispensables.
Est-ce qu'il y a un lien avec le virus de ce que Lisa a vécu et le microbiote?
Tout à fait. C'est qu'en fait, ce sont des virus pathogènes. Le virus Coxsackie, lorsqu'il est présent, mais quand il devient en trop grand nombre, quand il est en trop grande quantité, il devient pathogène. Ça, ce sont les germes, ça profite. Et s'il y en a, dans une certaine quantité, c'est bon. Mais dès qu'ils deviennent trop nombreux, à ce moment-là, ils deviennent pathogènes et dangereux. Et c'est comme ça que vous êtes tombé malade. C'est parce que vous en avez eu trop d'un seul coup.
Oui, j'ai dû manger,
vous avez dû attraper quelque chose. Voilà, c'est ça.
Mes enfants et mon mari en avaient des traces de ce Coxsackie, ouais, mais moi, ça. Je suis vraiment tombée.
Voilà, donc ils ont mangé probablement la même chose.
Mais j'aimerais dire quelque chose. Mon petit-fils est extrêmement allergique. Il a toujours été extrêmement allergique. Et il y a 2 ou 3 ans, il a commencé sous la proposition du médecin. C'était un essai quand même, parce qu'on a quand même de plus en plus d'études qui disent que si on ingurgite, si on mange des probiotiques à tous les jours, régulièrement, ça fait une médecine pour le microbiote. Et il y a un lien certain avec les allergies. Et Charles-Antoine, maintenant, il a pratiquement plus d'allergies, sauf une ou deux là, qui étaient. Mais il était énormément allergique. Et on pense, et les médecins pensent aussi, parce qu'évidemment, sous recherche, que c'est à cause des probiotiques qu'il prend vraiment régulièrement, tous les jours, qu'il a pu faire ce beau changement dans sa vie, qui est c'est magnifique. Là.
C'est vraiment une bonne nouvelle.
Oui.
Alors, je rappelle le titre du livre « Les microbes, nos alliés », disponible aux éditions Tricaré.
De ma
citoyen qui est avec nous a eu des traitements, a pris a eu des solutions pour son arthrose. Vous, docteur Baruel, qu'est-ce que vous proférez comme conseil quand quelqu'un...
Quand quelqu'un présente une certaine arthrose, je commence par lui conseiller de faire de la gymnastique indolore. C'est en premier, c'est ça qu'il faut faire, parce qu'en fait, il faut essayer de remuscler tous les segments de membres qui sont autour de l'articulation et qui peuvent maintenir l'articulation, alors qu'en fait, l'arthrose, c'est une usure de cette articulation. Donc, il faut faire ça en premier. Et évidemment, il faut le faire, mais au même temps, on peut avoir des antalgiques et des anti-inflammatoires si c'est efficace. C'est pas la peine non plus de donner des doses trop importantes. Il y a aussi l'infiltration qui marche quand même pas si mal. Mais si on peut la faire, hein, bien entendu, puisqu'il faut la faire avec un repère, et vous me disiez justement à propos de l'iode, il ne faut pas non plus être allergique à l'iode, parce que sinon on est privé de ce traitement-là. Et puis enfin, il y a beaucoup d'espoir avec les thérapies géniques. La thérapie génique, c'est je vais essayer de simplifier, c'est d'injecter dans l'articulation un ADN, d'accord, c'est l'acide désoxyribonucléique.
Des cellules souches, non, c'est ça?
Non, pas des cellules souches, mais un ADN qui, lui, va provoquer la fabrication d'une protéine, mais dans l'articulation. Et des cellules souches, non, mais par contre, des virus. Pour pouvoir faire rentrer cet ADN dans l'articulation, on utilise un virus. Et ce virus va permettre à l'ADN de fabriquer cette molécule. Ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Oui, 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 oui. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez merveilleux, d'assez magique.
Oui, ça, c'est merveilleux.
On se dit ensuite, bon, il faut voir aussi, mais si on met un virus, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il soit inactivé, il faut que ce soit un virus sympa, parce que sinon, bref, on ne sait pas très bien ce que ça peut donner.
On l'espère que la médecine... Mais on a évolué dans ce sens-là, et effectivement, pour plusieurs maladies.
C'est... On en est déjà à des phases dites 2, c'est-à-dire qu'en fait, on commence à regarder si ça marche chez certains humains.
Oui, mais c'est ça, vous parlez maintenant de tests, d'avancées, de recherches. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des recherches rassurantes sur l'Alzheimer qui pourraient nous aider peut-être à avoir confiance et sentir qu'on a des solutions?
Certains médicaments ont été... Enfin, beaucoup de médicaments ont été testés. En réalité, pour le moment, il n'y a pas grand-chose.
Pas grand-chose.
La meilleure chose à faire et la plus importante, c'est réellement un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de les accompagner, de leur donner du temps et puis d'essayer de les stimuler. Stimuler par les yeux, stimuler par le nez, stimuler par la musique, stimuler par le goût, car ils le perdent, le goût. Et stimuler aussi en les faisant peindre, dessiner. Vous savez qu'il y a un bouquin qui est sorti et qui est magnifique et qui sont des dessins faits par des gens atteints d'Alzheimer. C'est splendide. Et ces gens-là se sont fait extrêmement plaisir en faisant ces dessins-là. Même s'ils ne sont pas devenus mieux, en tout cas, ça les stabilise dans ces moments-là. Et ça les empêche de déprimer.
Mais c'est étonnant. Je me souviens de papa. Et il arrivait... Même vers la fin où il était vraiment complètement perdu, qu'on puisse attraper un moment de conscience.
Exactement.
Soit dans ses yeux, soit en le faisant chanter, alors qu'il ne se souvenait absolument plus de rien, il se rappelait de certaines chansons, comme
raison.
Partons, la mer est belle. Pour moi, quand j'entends cette chanson de Partons, la mer est belle, je pense à papa parce qu'il était à la fin et il était capable de chanter Pardon, la mer est belle.
Oui, mais oui.
Et ça, c'est une chose que les patients atteints d'Alzheimer aiment beaucoup.
Ouais. J'ai eu la même expérience avec un patient atteint d'Alzheimer à qui on disait, qui jouait du piano et on lui disait, mais alors, souvenez-vous. Et alors, c'est quoi cette chanson? Et il commençait quelques notes, on lui commençait quelques notes et tac, c'était parti et il jouait le morceau comme ça.
Ouais.
Et pour lui, c'était un grand bonheur.
Ça leur permet de retrouver le sens de leur vie.
Exactement.
Un morceau.
Mais oui.
Un morceau perdu. Mm.
l'acqua di questo torrente, così limpida e veloce, scenderò. Fino a quando la mia montagna, fino a dove questa montagna si farà pianura. Molto lontano da questo cielo, così vicino che lo puoi toccare. Fino al punto esatto, fino al punto dove il fiume accarezza il mare. Ma chissà dove il fiume incontra il mare. Quando non potranno più sentire, e sarò lontano da questo cielo, ma così lontano da non poterci tornare, molto vicino al punto esatto dove il fiume accarezza il mare, molto vicino al punto. Molto vicino a dove il fiume incontra il mare. Ma chissà dove il fiume incontra il mare.
Cette émission tire à sa fin. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez approfondir davantage avec le docteur Baruel? Quelque chose qui a retenu votre attention? Quelque chose que vous auriez voulu dire?
Ben, on a parlé de diagnostic pour une maladie incurable. Quand un médecin a à l'annoncer à un patient, comment est-ce qu'il s'y prend? Comment est-ce qu'il s'y prépare? Et est-ce qu'ils sont tous habilités à le faire correctement?
Déjà, il faut qu'ils s'y préparent, comme vous le dites. Ça, oui, c'est sûr. C'est vraiment très, très compliqué. Et c'est toujours extrêmement émouvant et très... Bref, habilité, ils le font. Ils doivent, oui, le faire, parce qu'ils sont confrontés forcément à ce genre de choses. Mais...
Pour eux, c'est un échec. En fait, pour beaucoup de médecins, annoncer la mort, c'est
compliqué.
C'est leur échec.
C'est compliqué.
Et c'est l'échec de la médecine.
Voilà, c'est l'échec de la médecine et c'est aussi... leur échec, et c'est en même temps, dans cet échec, il y a aussi la fin de la personne qui finalement est plus importante quand même que l'échec.
Oui.
Donc c'est toujours très compliqué à le faire, toujours.
Alors on a vraiment à la fin qu'à ouvrir les bras et qu'à l'aimer et qu'à dire je serai là, je serai avec vous, parce que quand on n'a plus rien à faire, ben, il reste de l'amour.
Oui, exactement. Alors maintenant, en parlant de ces questions justement, je voudrais vous rappeler, chers auditeurs, que vous pouvez nous adresser des questions santé par courriel à canalem@commercialvuesetvoix.com ou même par le biais des réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Listouin.
Oh, merci à tout le monde. C'était un plaisir de faire cette émission-là avec vous. Merci de m'avoir invité.
C'était
puis,
un plaisir.
Puis, bonne continuation.
Merci à nos chroniqueuses et aux invités qui nous ont donné le goût de parler de santé, notamment Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine, Nathalie Vien, travailleuse sociale, formatrice et conférencière à la Maison Montbourquette, Marie-Lyne Fournier, directrice générale du Réseau de l'Action bénévole du Québec.
Cette émission n'aurait pas été possible sans Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde, Christiane Campagna, aux communications, et Catherine Bourderon et Benoît Rassette, à la recherche et à la réalisation. Qu'on se le dise, accompagner bénévolement, c'est bon pour la santé.
Ici Catherine Bourderon
et Dr François Baruel,
c'est bon pour la santé.